American philosopher John Dewey.
Avoir raison avec John Dewey. En 1932, John Dewey donne à Harvard la première William James Lecture, une conférence annuelle en hommage à l'un des autres fondateurs du pragmatisme, son collègue, le philosophe William James, frère de l'écrivain Henry James. Deux ans plus tard, cette conférence paraît sous la forme d'un ouvrage, Art as Experience, l'art comme expérience, un livre qu'on peut aujourd'hui considérer sans aucun doute comme l'une des contributions majeures à la philosophie de l'art au XXe siècle. Un livre qui aura d'ailleurs assez vite aux États-Unis et dans certains autres pays une très grande influence sur les mondes de l'art, sur les critiques, sur les curateurs, mais aussi et avant tout auprès des artistes. En France pourtant, il faudra attendre 2005, soit plus de 70 ans, pour le voir enfin traduit et lu. C'est cette facette esthétique de l'œuvre de John Dewey et son influence sur les artistes que nous allons aujourd'hui explorer en compagnie des philosophes Barbara Formis et Olivier Godin. Barbara Formis, bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous depuis l'Italie. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis nous sommes également avec Olivier Godin, bonjour.
Bonjour à vous.
Et également par téléphone, vous êtes philosophe, vous êtes également maître de conférences, mais à l'école de la nature et du paysage à Blois. On va comprendre pourquoi quand vous nous parlerez de vos recherches, Olivier Godin, de vos recherches qui doivent en partie à cette philosophie de John Dewey. Barbara Formis, je voudrais qu'on commence très simplement en fait par ce livre, L'art comme expérience, je le rappelais, livre publié en 1934 aux États-Unis, qui est en fait une conférence au départ. C'est pas la première fois que Dewey écrit sur l'esthétique. Il l'a fait un petit peu au préalable, et notamment dans des livres qui concernaient l'éducation. Mais c'est la première fois qu'il le fait de manière aussi substantielle, aussi importante. Donc on voit que c'est pas un thème qui apparaît très tôt dans sa vie. Mais en fait, ce livre, je le disais aussi, et marquera un moment très 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 fort, et on peut considérer que c'est véritablement, parmi les 40 volumes qu'il a écrits, l'un de ceux qui est le plus important, Barbara Formis.
Oui, 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 c'est tout à fait intéressant aussi de remarquer, comme vous l'avez fait, l'histoire éditoriale de Art as Experience. Dans mon pays natal, effectivement, la traduction italienne est parée en 1951, et elle aura déjà une influence considérable en fait sur la scène artistique et théorique de l'Italie, notamment les artistes de l'arte povera, Luciano Fabbro, Giuseppe Pennon avaient lu Dewey. Et c'est vrai qu'en France, les artistes n'ont pas eu accès à une traduction que très récemment, alors qu'effectivement, la pensée esthétique de Dewey aurait pu proposer une alternative aux pensées esthétiques dominantes de l'époque, hein, notamment la philosophie analytique, la phénoménologie et plus tard. Donc il y aurait peut-être à s'interroger pourquoi ça a attendu autant de temps.
Je vous propose qu'on y vienne plus tard. À cette question de l'influence, mais qu'on commence peut-être par dire ce que défend John Dewey dans ce livre. Quelles en sont les thèses les plus importantes par rapport à Formis?
Oui. Donc déjà, si vous regardez en fait la table de matière, elle est très intéressante. C'est-à-dire que Dewey va parler de expérience, il va parler de créatures vivantes, d'actes expressifs. Et il y a aussi des chapitres qui sont un peu moins lus vers la fin, l'organisation des énergies, la substance commune des arts, qui montre en fait déjà qu'il était un peu en avance par rapport à sa période. C'est-à-dire qu'il allait pointer le fait que l'art devient une substance qui est commune à beaucoup d'expériences et qui n'est donc pas du domaine d'une élite ou du domaine de l'art uniquement. Et en fait, la première phrase de Dewey dans l'Art as Experience, c'est que les œuvres d'art sont devenues un obstacle à leur propre théorie. C'est-à-dire que le phénomène de produire des objets qui seraient, on va dire, destinés à une expérience esthétique ne peut pas être considéré comme le point de départ. Et en fait, son point de départ est plutôt une prise de conscience ancrée dans le vivant, dans l'expérience. Et l'art ne se réduit plus à une œuvre matérielle. Et surtout, l'esthétique n'est plus classée dans le champ de la connaissance. Puisque, comme vous l'avez déjà dit dans les émissions précédentes, le pragmatisme se distingue nettement du cognitivisme. Et donc, va, pour l'esthétique, ancrer l'esthétique dans un champ de l'affectivité. Ça, c'est très important, puisque nous sommes, je rappelle, en 1934, donc bien avant toute une quelconque vague New Age, où les questions d'énergie, de rythme, d'écologie auraient pu être entendues. Et aussi, en fait, cette question de l'expérience va placer l'esthétique dans un domaine, dans un champ intermédiaire. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une situation foncière de milieu. L'esprit donc n'est pas séparé du corps, la nature n'est pas séparée de la culture et l'art n'est pas séparé de la vie ordinaire et quotidienne. Et toujours dans la première page, c'est assez étonnant comme il est très pédagogue pour ça, John Dewey va dire que l'art est ce à la vie, ce que les sommets des montagnes sont à la terre. Et il va dire, les sommets des montagnes ne flottent pas sans support sur la terre et ne reposent pas non plus sur la terre. Ils sont de sorte d'intensité, de moments intensifs, mais ils sont la terre. C'est-à-dire qu'ils sont la terre dans leur opération la plus manifeste. Et en fait, dans cette métaphore, je trouve que Dewey dit déjà ce qu'il va déployer dans les pages suivantes, c'est-à-dire que l'art n'est pas quelque chose de plus que la vie, mais il a un pouvoir intensificateur, mais il est constitué de la même matière, du même matériau que la vie, sauf que dans la vie ordinaire, nous sommes souvent dans une sorte de dispersion, dans une répétition, alors que dans l'expérience esthétique, ce qui importe, effectivement, c'est cette sorte d'unité et de l'accomplissement qui a lieu par le fait d'avoir une expérience esthétique.
On voit bien, Olivier Gaudin, comment en fait cette perspective continuiste entre l'art et la vie vient pour le coup en rupture de philosophie plus ancienne dont on a hérité et qui continue d'ailleurs d'être prégnante et qui considère l'art comme quelque chose qui flotterait au-dessus, quelque chose de sacré en particulier. C'est vraiment pas la conception qu'on a John Dewey.
Oui, on peut vraiment parler d'une forme d'enracinement, c'est-à-dire qu'il y a un décloisonnement généralisé dans ce que propose Dewey dans cet ouvrage, au sens où il n'y a plus de séparation, comme ça vient d'être dit très bien, avec ce qu'on pourrait appeler justement le naturalisme continuiste de Dewey, c'est-à-dire une posture de méthode où on ne va plus considérer que ce qui se passe dans le domaine de l'art serait séparé du reste de l'expérience, et donc cela implique d'aller chercher les savoirs qui sont du côté des sciences de la nature, la biologie, l'écologie, et de mettre au premier plan vraiment la notion d'interaction, comme l'avait rappelé Joël Zask dans le premier volet de vos émissions, à savoir donc que l'organisme et l'environnement sont dans des rapports d'échange mutuel, de transaction, et non pas uniquement une sorte de réception passive.
Donc, là, on voit ce qu'il hérite de Darwin en la matière.
Voilà, juste un mot à ce sujet, c'est donc on peut vraiment parler d'une reconstruction fondée sur un nouveau concept de perception. Il n'y a plus l'idée justement d'une perception qui serait comme une réception passive, et donc Dewey apporte en cela une dimension critique essentielle. Je pense que c'est ça qui a aussi expliqué la portée finalement de ce qui est proposé et le côté un peu déroutant quand on ouvre l'ouvrage, effectivement, passer ses premières pages, c'est qu'on a vraiment affaire à des rappels d'une logique justement qui vient des sciences expérimentales et que Dewey n'entend pas justement distinguer comme opposé, en tout cas comme incompatible avec les considérations esthétiques.
L'art et la vie, donc Barbara Formis, ça veut dire aussi que l'esthétique doit englober des expériences qui ne sont pas forcément socialement toujours arrangées ou rangées jusque-là dans le champ de l'esthétique. Ça veut dire que Dewey va être attentif à ce qui relève aussi de formes populaires de l'art, et ça veut dire qu'il va casser au fond les hiérarchies entre le grand art et puis la culture populaire.
Oui, ça c'est tout à fait essentiel. Il y a vraiment une vision de l'art comme une dimension sociale, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout pour l'art ou l'autonomie de l'art, mais il s'agit pour Dewey de donner une place à l'art au milieu de la société et donc d'en faire aussi un domaine anthropologique, politique, pédagogique où effectivement les œuvres peuvent, comme d'autres expériences, nous donner, nous éduquer, mais en réalité, on peut dire que pour Dieu, l'œuvre importe peu. Si on voit effectivement ces exemples aussi de ce qu'il entend par une expérience esthétique, il y en a deux ou trois, mais il y en a le premier, c'est se dîner dans un restaurant parisien. Donc, on s'imagine Dewey à la table, en terrasse. Et qu'est-ce que fait que ce repas, en fait, devient une expérience? C'est qu'il dessine, en fait, les contours de ce que un repas pourrait être. Et donc, il remplit et il réalise de façon manifeste ce que un repas devrait être. Et dans ce sens-là, il va classer aussi les autres expériences précédentes et qui viennent par la suite dans un ordre dans lequel ce repas-là aura été aura marqué, on va dire, dans la mémoire aussi de l'expérience. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne aussi un autre exemple, c'est celui d'une rupture d'amitié. Donc, il n'y a pas que des exemples, on va dire, paisibles et agréables. Ce qui lui importe, c'est que l'expérience esthétique propose une sorte de coupe au sein du réel, mais cette coupe, elle montre aussi que nous sommes complètement dans la même matière hein, que ce réel qui paraît comme allant de soi, mais qui en fait est tout à fait obscur hein, pour la plupart de notre expérience ordinaire. Et donc en fait l'art, juste un dernier mot sur la relation entre l'art et la vie, et ce qui est très difficile aussi à saisir, c'est que donc il y a un rapport de continuité, c'est-à-dire que la création artistique ne peut pas être considérée comme à part de toutes les autres activités des humains, mais on ne peut pas non plus dire que l'art est la même chose hein, que le fait de vivre. Donc la création artistique n'est pas exclusive à une simple élite, mais en même temps, il y a une distinction, et cette distinction permet en fait les rapports hein, et les interactions entre l'art et les autres domaines du social.
Alors la philosophie esthétique de Dewey permet de résoudre des contradictions, par exemple celle ressentie dans les années 80 par un jeune philosophe américain à l'époque, Richard Schusterman, qui enseignait les théories de l'école de Francfort sur la culture, des théories souvent assez méprisantes pour la culture populaire. Et la contradiction était que la journée, il enseignait ses théories et que le soir, il allait danser dans des clubs sur de la musique électronique. Au fond, cette musique qui était pas très bien considéré par cette même philosophie. Et pour résoudre cette contradiction, la lecture de John Dewey a été pour lui essentielle, ce qui fait que Richard Schusterman a travaillé sur le pragmatisme, s'en est servi et a publié en fin de compte un livre sur le rap et sur les poèmes de T.S. Eliot mis sur un plan d'égalité, c'est-à-dire le grand art, la poésie étant par excellence peut-être le plus élevé dans cette hiérarchie sociale, et puis le rap considéré par certains comme un sous-genre musical dans les années 80, les deux mis sur un pied d'égalité. Richard Schusterman a été l'un des introducteurs de Dewey en France parce que son livre publié en 1992, L'art à l'état vif, a eu un écho assez important. Je vous propose de l'écouter, il était mon invité à la suite dans Les Idées en 2015 pour parler de son travail sur la performance.
La langue, ce n'est pas un calcul séparé, autonome de la vie pratique. On apprend et on donne et on reçoit les sens de mots à travers des pratiques. Donc, ce qui est important dans le pragmatisme, c'est l'action. On peut dire aussi performance. Et donc, on apprend une langue par faire des choses. Ça, pas simplement pour une vision passive. Et on enseigne la langue aussi par faire des choses. Et donc, le performatif était très important. Ça fait pas uniquement une question dans les arts, mais dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs scènes. C'est un vieux lieu commun de Shakespeare. Tout le monde est une scène. Et on fait des performances, on fait une performance maintenant. Et donc, il y a une grande continuité entre la vie pratique et la vie intellectuelle et la vie artistique. Et une direction importante de ma pensée, c'est de penser ces continuités.
C'est d'ailleurs Richard Schusterman qui rédigera la préface de la première édition en français de l'art comme expérience, 2005, donc 70 ans après sa parution en anglais, publiée dans une toute petite maison d'édition de l'université de Pau, par une traduction de Jean-Pierre Cometti. Ça en dit long quand même sur le temps qu'il a fallu et la manière un peu souterraine dont est parvenu Douy en France, Barbara Formis.
Oui, c'est tout à fait important d'entendre aussi cet extrait. Merci de Richard Schusterman. Je dois dire que moi-même, j'ai découvert en 1998, quand je suis arrivée en France, l'art à l'état vif, ce qui est assez drôle parce que en Italie, j'étais influencée par la phénoménologie française et j'arrive en France, je suis influencée par le pragmatisme américain. Mais c'est vrai que le livre de Richard Schusterman a été non pas seulement important pour introduire Douy, mais a aussi permis d'extraire quelque chose que Douy peut-être n'avait pas forcément encore élaboré, c'est-à-dire cette idée d'une esthétique pragmatiste. Et donc il y a effectivement cette question de la continuité entre l'art et la vie, qui est une continuité très très importante entre le fait d'agir et le fait de penser, hein, que nous avons dans toute la tradition pragmatiste. Ceci signifie aussi pour l'art, et Richard Schusterman l'a montré très bien dans son livre, c'est que la culture populaire fait partie des démarches artistiques, puisqu'il y a une sorte de démocratisation radicale propre au programme pragmatiste, qui est aussi relié à une sorte de naturalisme somatique, hein, que Richard Schusterman va développer par la suite avec son idée de somme esthétique. Et donc il est possible en fait de voir que la condition, on va dire, pour laquelle il y a de l'art, c'est une condition avant tout naturelle, et par laquelle effectivement le langage et l'esprit ne sont pas séparés de nos actes et de nos paroles, hein, comme il le dit très bien. Et Douy effectivement avait repensé cela par la notion de expression, qui est une notion, on va dire, qui a une tradition un peu romantique, mais au lieu de penser l'expression comme un simple extériorisation d'un contenu émotionnel déjà formé à l'intérieur, Douy va dire l'expression est une modalité transformatrice, c'est-à-dire que la conscience n'est pas primairement cognitive et ensuite organique, comme le dit très bien Chaussin dans l'extrait que vous avez nous a fait entendre, mais au contraire, l'expression artistique, mais l'expression langagière sont des formes de comportement qui nous influencent aussi dans nos modes de pensée. Et c'est là où la pensée vient sur un pied d'égalité avec le phénomène d'agir.
Alors, ce que vous dites à propos de l'esthétique, Barbara Formis, fait évidemment écho à ce qu'on a pu dire hier à propos de l'éducation, de la pédagogie. Et d'ailleurs, il y a un lien qu'on a commencé d'esquisser hier avec Alain Kerlan en particulier, entre cette dimension artistique et cette dimension d'éducation, qui prendra des formes même institutionnelles, Olivier Gaudin, sur lesquelles vous avez travaillé, et notamment sur un lieu très important pour l'art du XXe siècle, pour l'art américain, mais pas seulement, qui est le Black Mountain College, qui est donc ce lieu créé dans les années 30, à peu près en même temps que la parution de ce livre, je crois un an avant, qui va être créé par quelqu'un qui est un grand lecteur de Douy. Douy va être d'ailleurs associé, membre du comité scientifique du Black Mountain College, Olivier Gaudin. De quoi s'agit-il exactement ?
Oui, c'est une expérience effectivement très importante qui s'est montée là, donc en 1933, avec un principal instigateur qui s'appelait John Rice, qui était un philosophe au départ, un enseignant, qui avait finalement souhaité mettre en pratique un certain nombre de principes qui étaient largement hérité de la conception pédagogique de Dewey, et au fond inventer un lieu, un établissement d'enseignement qui soit sur le modèle au fond d'une école où l'art tient une place centrale, mais sans que ce soit une école d'art à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ne vise pas à former des artistes, et certainement pas sur un mode héritier de l'académisme. Donc, c'est une expérience collective qui se définit par une expérience justement où l'art et la vie sociale en l'occurrence, sont mêlés, et où finalement on ne vise pas à former des personnes en fonction des canons disciplinaires déjà établis, mais où chacun va pouvoir essayer de se confronter à des matériaux, à des expériences précisément, et à une qualité d'expérience dont on ne connaît pas au préalable l'issue. Et l'un des acteurs principaux de cette expérience justement pédagogique, ça a été Joseph Albers, qui était un enseignant, lui-même ancien élève de l'école allemande du Bauhaus, qui a franchi donc l'Atlantique en 1933, après la fermeture de l'établissement allemand définitivement à Berlin, et qui est arrivé presque directement au fond, en sortant du bateau en Caroline du Nord à Black Mountain College.
Grand spécialiste de la couleur.
Alors, qui est devenu effectivement grand spécialiste de la couleur, mais vraiment avec cette notion d'interaction des couleurs, qui est le titre de son grand ouvrage, et qui en fait mettait en avant cette notion d'expérience. Il a si bien été attentif, je dirais, aux propositions de Dewey, qui étaient souvent citées par Rice, que Albers lui-même va faire paraître un petit texte qui s'appelle Art as Experience en 35, donc juste un an après l'apparition du livre de Dewey. Alors, de quoi il s'agissait dans son enseignement, hein, c'était vraiment, je pense, c'est ça qui est important à retenir, de mettre en avant une logique de la découverte par la confrontation à justement des activités, des matériaux, des contextes. Et c'est pour ça que les notions que met en avant Dewey dans son ouvrage, d'énergie, de rythme, d'émotion, de sensation et de participation, je dirais, vont prendre autant de place ensuite dans l'héritage que des artistes, effectivement, dont on va parler, j'imagine, tout de suite, mais qui vont passer au Black Mountain College, hein, notamment dans des sessions d'école d'été, vont ensuite amplifier et diffuser pendant les décennies à venir. Peut-être juste un mot à ce sujet, c'est la place la filiation que l'on peut tracer presque littéralement encore entre le Black Mountain et cet héritage, c'est le fait que après le départ donc de Albers et de Rice lui-même, l'un des directeurs, au fond le dernier directeur de l'établissement, ce sera Charles Olson, c'est-à-dire l'un des grands poètes de ce mouvement qui s'appellera l'objectivisme aux États-Unis après la guerre, et qui va mettre en avant vraiment les notions de champ poétique, hein, d'ouverture dynamique, de processus, qui sont toutes extrêmement compatibles avec ce que Dewey avance dans son ouvrage. Mais j'imagine qu'on va en parler tout de suite.
Et l'autre chose qui n'est pas tout à fait un hasard, si vous avez bien écouté Olivier Gaudin, compte tenu de cette philosophie de l'art de Dewey et de la manière dont elle est capable de faire en sorte que s'organise une vie sociale pluraliste et qui a recours à toutes les sensations, à tous les domaines, c'est que dans l'une de ces écoles d'été en 1952, c'est là que John Cage va faire le premier happening de l'histoire avec Merce Cunningham, en particulier, et quelques autres. Et puis, cette tradition sera poursuivie par la suite, Barbara Formis, notamment par celui qui va un petit peu formaliser ce happening, qui est Alan Kaprow.
Oui, c'est ça. Il faut dire que c'était vraiment une période très, très riche. Et Alan Kaprow avait lu Dewey, et Alan Kaprow va écrire un recueil de textes, qui est un magnifique recueil que je trouve très philosophique, qui s'appelle « The Blurring of Art and Life », l'art et la vie confondue, dans lequel, effectivement, il va, on va dire, décrire les pratiques du happening, mais aussi en mettant en relief l'influence de Dewey, mais aussi d'une certaine forme de pensée tout à fait américaine qui passe par Emerson, Thoreau, Whitman, qui mène jusqu'à Dewey. Et cette pensée a beaucoup influencé Kaprow et ses camarades.
Et Kaprow, on va l'entendre, Barbara Formis, en 1968, Alan Kaprow.
This is a lecture on how to make a happening. There are 11 rules of the game. 1. Forget all the standard art forms. Don't paint pictures, don't make poetry, don't build architecture, don't arrange dances, don't write plays, don't compose music, don't make movies. And above all, don't think you'll get a happening out of putting all these together.
Alain Capro, donc on voit bien, vous rappeliez tout à l'heure que le point de départ peut-être de Dewey pour ce livre sur l'art comme expérience, c'est de considérer que l'art ne peut pas être réduit aux objets. C'est ça qu'on entend aussi dans ce propos d'Alain Capro.
Oui, c'est magnifiquement résumé par Capro. C'est aussi l'idée, le slogan majeur qui vient par la suite, ce qu'il appelle le « life like art », avec des traits d'union entre les trois termes, qu'on peut traduire par l'art qui rassemble la vie ou l'art comme la vie, c'est effectivement une revendication de ne pas, comme il dit, ne pas faire de l'art et ne pas vouloir, on va dire aussi, faire de l'art. Il considère la notion de création complètement piétiste et donc il va plutôt arranger, programmer des possibilités d'émergence d'événements dans un art qui se veut expérimental. Donc il y a effectivement cette notion de laboratoire qu'on avait déjà retrouvée dans le Black Mountain College et qui va influencer beaucoup les artistes de l'époque. Et une autre chose, si je peux me permettre de rappeler en fait l'engagement artistique de Dewey, c'est sa relation avec Albert Barnes, qui était un homme d'affaires, chimiste et patron d'usine, et collectionneur d'art, qui collectionnait plutôt de la peinture, hein, Picasso, Renoir, Cézanne, etc., et qui avait, dans une usine, commencé à faire des sortes de séminaires éducatifs pour ses ouvriers. Par la suite, ce séminaire devient une sorte de fondation, une sorte d'école pour permettre effectivement de faire rentrer ces œuvres, ces tableaux faisant partie de la collection. Et John Dewey, en fait, s'est lié d'amitié avec Barnes et il devient collaborateur à sa fondation, ce qui montre effectivement une sorte d'existence des œuvres, mais à l'intérieur d'un modèle tout à fait ancré dans la démocratie, hein, dans l'idée même de trouver dans les tableaux, de trouver dans les formes d'exposition qui ne soit pas muséale. Hein, il était vraiment contre la conception muséale de l'art. Et donc Dewey va effectivement aider à Barnes dans sa fondation puisqu'elle est en ligne avec cette idée de l'art comme éducation.
30 minutes ne nous auront pas suffi, Olivier Godin, pour aborder une autre question qui est celle de la manière dont le pragmatisme de Dewey peut nous permettre de penser des objets esthétiques un peu différents du côté de l'urbanisme, de l'architecture notamment, sur lesquels vous travaillez.
Juste un mot pour peut-être prolonger effectivement ce qui a été dit.
Mais vraiment un mot parce qu'on arrive au terme de l'émission, Olivier Godin.
Bah pour votre volet de demain, en fait, c'est que à aucun moment cette conception esthétique ne se veut comme séparée justement de l'ensemble de la société. Et tout ça se passe au cœur de la Grande Dépression américaine. Donc peut-être venir demain, mais toutes ces expériences pédagogiques et artistiques sont tournées vers ce qui se passe dans le reste de la société à l'époque.
On en parlera demain avec Pierre Steiner et Carole Gaillet. Merci beaucoup Barbara Formis et Olivier Godin.
Merci à vous.
C'était Avoir raison avec John Dewey, à la réalisation Annabelle Brouard, à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi.